Bien, bonjour à tous. Et tout d'abord, je tiens à remercier Benoît et l'ENSIB pour ce plaisir de passer une semaine chez vous et d'avoir l'opportunité de vous parler cet après-midi. Brièvement, je me présente. Je travaille dans les humanités numériques depuis maintenant une vingtaine d'années. J'ai lancé une revue en février 96, alors que je terminais mon doctorat à Oxford. Et quand je suis parti en Angleterre, j'ai continué de travailler sur les questions principalement de transfert des connaissances papier électronique, donc à la fin des années 90, début 2000, suivre toute la chaîne de cette transformation de la publication savante, en parallèle d'une carrière plus traditionnelle de 19e britannique avec des éditions papier. Et donc au fur et à mesure des années, mes recherches se sont un petit peu chevauchées. Je travaille aussi beaucoup dans les développements institutionnels des humanités numériques au Canada. J'ai été le président français pendant 6 ans de l'Association canadienne des humanités numériques et je suis à l'heure actuelle sur le comité Humanistica, qui est l'association francophone et donc mondiale des humanités numériques, à laquelle on continue de réfléchir au développement de cette discipline, transdiscipline, groupe d'outils. La définition reste vague. Plus récemment, j'ai lancé un centre à l'Université de Montréal sur les humanités numériques interuniversitaires, d'où découlent les travaux d'une équipe dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est un petit peu la présentation que je vais faire donc, pendant 30 minutes pour parler d'abord un peu en large sur la question du web et plus spécifiquement sur la question d'édition numérique, édition critique dans un contexte numérique. Donc avant de parler d'abord des travaux de mon équipe, je veux précisément vous présenter quelques défis pour les chercheurs en sciences humaines pour trouver les bons outils et les bonnes méthodes pour analyser le web, un phénomène qui est par nature assez insaisissable car en perpétuel mouvement. Nous pouvons tous convenir, il semble, que le web se laisse en effet mal saisir, c'est-à-dire qu'il évolue à un rythme extrêmement rapide. Pour l'utilisateur individuel, de manière croissante, la vue qu'il obtient d'une partie du web est une recomposition personnalisée qui agrège des sources diverses et qui peut partiellement être adaptée aux traces d'usage qu'il a laissées. Le plus simple pour penser à ça, c'est le modèle « ceux qui ont aimé X aimeront Y ». Le chercheur recueille aussi des traces toujours fragmentaires et en retard par rapport à une réalité qui bouge pendant l'observation même. L'archiviste, de son côté, est confronté à une version postmoderne du mythe de Sisyphe, où il n'archivera qu'une représentation du web qui n'a jamais existé sous cette forme, puisque les différents instantanés pris ne sont pas totalement synchrones. Il faut donc à chaque fois recommencer son enregistrement, à peine celui-ci achevé, pour témoigner de la dynamique du réseau. En même temps, sur le web, tout paraît mesurable ou presque, mais ces mesures ne sont pas immédiatement lisibles, car elles ne représentent pas des phénomènes perceptibles, souvent en fait issus de calculs abstraits. Pour construire du sens dans cet environnement, les outils graphiques ont souvent remplacé les chiffres et les équations. On cartographie désormais les flux, les réseaux, et on les représente sous des formes graphiques. La métaphore géographique, les histogrammes et les pictogrammes sont donc devenus les formes les plus convenues de la rhétorique dominante du web. De notre côté, nous manipulons des traces toujours plus volumineuses, complexes, sans vraiment pouvoir s'assurer en quoi elles sont les traces. Est-ce que ces masses sont-elles des échantillons d'une population au sens statistique du terme ? Il s'agit d'une logique alors du plausible, alors même que les outils, par leur précision et leur capacité de calcul, peuvent donner le sentiment de l'appréhension directe, effective même, de ces phénomènes. Le défi est donc d'induire des régularités à partir du flux qui est toujours partiel et nécessairement infidèle, sans qu'on puisse connaître avec certitude l'ensemble ni même la partie. Le web oblige donc à une sorte d'archéologie du savoir, d'un présent infiniment bruyant et fuyant. Il faut inventer une épistémologie qui permette donc de comprendre un objet d'une part dont les images sont obsolètes dès leur capture, à la manière des astrophysiciens par exemple, et en même temps de pouvoir la représenter intégralement, à la manière des météorologues qui combinent et modélisent des informations massives et hétérogènes. Une propriété particulièrement importante de cet environnement est donc qu'il laisse son présent et des pans entiers de son histoire en simultané. Les traces laissées ne sont donc que des matériaux pour établir des statistiques dynamiques qui sont elles aussi des dispositifs mémoriels pour établir la genèse des informations accessibles et les intégrer dans un champ de compréhension élargi. Cette capacité à gérer l'information vivante et à tresser ses processus de construction donne au web un potentiel unique de réflectivité. la première communauté virtuelle, qui s'appelait le Well, dans les années 80, puis l'Internet et le Web, occupent un espace laissé vacant par les médias du XXe siècle. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les télécommunications qui disposent de technologies qui autorisent la communication symétrique de point à point, autrement dit la conversation, ou plutôt même un dialogue à distance, on pourrait dire. Mais de l'autre part, vous avez les médias dits de masse qui se sont organisés selon des formes de communication de un vers plusieurs, ce qu'on appelle en anglais le broadcast, qui sont asymétriques, puisque le retour des récepteurs vers les producteurs est quasi inexistant. Entre la communication symétrique de 1 à 1 et la communication de masse de 1 vers plusieurs, l'Internet vient bouleverser le mode de communication de petits groupes à distance, ces fameuses communautés virtuelles du début de l'Internet, ou même de nos jours, les réseaux sociaux de type Facebook, qui jouent sur deux niveaux, de petits groupes à groupes élargis. La communication dans les petits groupes de type salon littéraire du 18e ou réunion de travail ont toujours été identifiés comme un genre particulier, mais jusqu'à là, la coprésence physique était obligatoire. Une des innovations principales d'Internet et du Web en termes de communication est donc dans cette part d'outils de conversation à plusieurs où l'on écrit, pensez au Google Doc où on peut même écrire en simultané, en plus enrichi par l'image, le son et la vidéo qui occupent de plus en plus une place centrale. En termes plus général, nous pouvons donc convenir qu'il est devenu impensif de souligner que le numérique a envahi toutes les sphères de la production et de la diffusion des connaissances, tout comme il a envahi toute la structure de la société. L'ensemble des expertises et des activités autour des usages, des documents et des cultures numériques qui ont été développées au cours des 20 dernières années ne cessent de prendre l'ampleur dans toutes les disciplines du savoir. Nos activités de recherche s'inscrivent désormais dans un environnement numérique qui n'est pas sans conséquence sur la nature même de la recherche, ses objets, ses méthodes et ses résultats. Cependant, la plupart des projets, que ce soit base de données, nouvelles plateformes de diffusion ou outils de recherche et d'analyse, demeurent le plus souvent isolés les uns des autres, et ce, tout particulièrement dans les humanités. Il est ainsi devenu urgent de proposer une réflexion théorique concertée sur ces nombreuses initiatives distinctes. Et c'est pourquoi l'équipe que je dirige, le groupe de recherche sur les éditions critiques en contexte numérique, ou le GREN, pour pas que je me répète 40 fois, réunit des praticiens et des théoriciens impliqués dans plusieurs projets concernés au premier chef par les outils et la culture numérique. Ce groupe se positionne au centre des travaux de réflexion sur ces nouvelles formes d'environnement de recherche. Les technologies numériques ont profondément modifié nos pratiques de recherche, d'édition, d'échange et de publication. Les supports ont changé, de même que les modalités et le sens de l'écriture ou le concept d'auteur, pensez aux formes de lecture, d'accès ou de diffusion, et plus généralement, l'ensemble du dispositif de production et de transmission du savoir. Si la littérature, pour prendre une discipline dans le groupe, a toujours eu un rôle capital dans la formation des catégories culturelles, par exemple, elle prend une place encore plus fondamentale dans le contexte actuel, qui est caractérisé par une prédominance de la forme textuelle. Le thème central de notre équipe consiste à cerner les changements entraînés par le numérique dans le domaine de la production et de la diffusion du savoir dans les humanités. Plus précisément, les membres du GREN étudient comment le numérique provoque un réagencement des dispositifs de production et de diffusion de la connaissance et des contenus en littérature, communication et histoire de l'art. Pour ce faire, ils s'appuient sur une expertise de haut niveau dans les sciences de l'information et de l'informatique. Cette conjonction opportune de chercheurs et de domaines de spécialité nous a permis de jeter les bases d'une analyse et d'une appréhension à la fois pratique et théorique d'un objet d'étude crucial dans nos domaines respectifs, soit l'édition critique, au sens large, et ce qu'il en advient à l'ère du numérique. Ici, édition critique est entendue comme la production savante d'un document accompagné d'annotations, de commentaires et autres matériaux jugés opportuns par un éditeur. La nature même des éditions critiques a subi des changements majeurs avec l'explosion des données et la transformation des savoirs, et ce, tant sur le plan de la quantité d'informations disponibles que sur la manière de la représenter. L'étude de ces changements et l'exploration concrète de nouvelles formes d'édition critique via l'implémentation d'outils informatiques sont au cœur de notre recherche. Historiquement, la tradition documentaire a privilégié la stabilité, insistant sur la fixité, la permanence et l'intégrité des contenus. Mais le web, comme je l'ai indiqué, remet l'accent sur le flux, la dynamique des échanges et la mutabilité des contenus. Ainsi, entre deux pôles classiques de la stabilité d'une part et du mouvement de l'autre, une redistribution s'opère. Selon les différentes phases, les processus documentaires s'accélèrent. Le document était avant une mise à distance d'un événement pour la preuve et la mémoire, rendue possible en partie par la durée des étapes de la construction et de son accès. Aujourd'hui, la vitesse des productions ainsi que de la distribution et de la recommandation documentaire automatisée est telle que l'humain n'a plus souvent le temps de construire l'événement en tant que document et ne peut plus qu'en visualiser une représentation partielle. La tentation de l'intelligence artificielle dans ses premiers pas avait été de déléguer à la machine le traitement des documents, voire même celle du sens. L'échec de cette construction machinique globale du sens a conduit à des projets d'ontologie plus circonscrits et à des structurations du sens plus modestes. Dès lors, les promoteurs du web sémantique se sont tournés vers les données plus directement manipulables par la machine. Au-delà des documents, le web de données rend maintenant accessible un nombre considérable d'informations qui suppose que ces dernières soient mises à disposition dans des formats et via des protocoles d'accès standards. Nous sommes là dans l'ordre d'un flux néo-documentaire causé par le traitement extensif et instantané des données. Inversement, les données relatives à des communautés réduites et structurées peuvent faire l'objet de traitements sophistiqués grâce à des propriétés plus riches, explicitées et stabilisées, ainsi qu'au temps nécessaire à construire ce dispositif, mettant ainsi en avant les enjeux liés à l'autorité et à la construction de la signification. De surcroît, on note que le développement plus récent des terminaux conviviaux et mobiles, alliés à l'informatique nuagique, ce qu'on appelle chez moi le cloud computing, n'a pas de conséquences géographiques, car la plateforme choisie est une contrainte pour le code. Là encore, notre temps documentaire lui-même est modifié. Par exemple, les temps de travail et de loisirs avaient auparavant leur propre moment, séparés, qui se traduisaient par la manipulation de documents de genres différents. Or, ce n'est plus le cas désormais, car le fait de porter sur soi un point d'accès à une mémoire externe, sinon unique, du moins apparemment identique, rend caduque cette distinction. Nous disposons tous, au travail comme à la maison, de tous les outils documentaires qui accompagnent chacune de nos activités. Dès lors, notre espace néo-documentaire a tendance à se configurer par rapport à nos attentes individuelles, dans le cadre offert par les stratégies commerciales des fournisseurs de services documentaires, intéressés, comme vous le savez, à suivre notre comportement d'achat afin de les influencer à leur profit. Il faut donc noter que deux temps sociaux, autrefois séparés, se superposent. Le temps de la lecture, qui était long et éloigné de la production documentaire, un temps de la médiation et de la réflexion, et celui de la conversation, qui est immédiat, réactif et contraint, un temps de l'échange et du dialogue. Ces deux temporalités se recoupent maintenant et se confondent parfois dans des nouveaux environnements de recherche, comme l'idée d'écrit-lecture du groupe de recherche parisien sur les dispositifs d'information et de communication à l'ère numérique. Depuis plusieurs années, des chercheurs se sont interrogés sur les caractéristiques de la littérature dans un environnement numérique. Et on peut penser aux travaux de Catherine Hales, par exemple, dont la riche production a permis de donner une définition précise des changements de format entre le papier et le numérique. Et dans le milieu francophone, les travaux récents sur la culture numérique réalisés par Milad Douéhi ou Samuel Archibald démontrent aussi que le numérique ne doit pas être uniquement considéré comme un ensemble d'outils, car il a modifié plus généralement nos propres modes de lecture, notre rapport à la mémoire, nos relations avec les autres chercheurs et en fait même notre conception du savoir. Nous avons donc choisi l'édition critique numérique car elle constitue un atout majeur pour la recherche scientifique à laquelle elle lance cependant de nouveaux défis. Le numérique est en effet en train de remodeler l'ensemble du processus de production du savoir, de validation des contenus et de diffusion de la connaissance. Aussi, il est pertinent de nos jours de parler plutôt d'éditorialisation, à savoir, pour citer la définition de mon collaborateur Marcello Vitali Rossati, je cite, « l'ensemble des dispositifs qui permettent la structuration et la circulation du savoir ». Le terme avait été utilisé pour la première fois en 2007 par Bruno Beauchimon, qui le définissait alors comme un processus permettant la recontextualisation d'un contenu dans un environnement numérique. Ce terme désigne donc un nouveau processus qui fait interagir des contenus ou des ressources, un environnement technique, pensez réseau, plateforme, serveur, CMS, algorithmes de recherche, mais aussi des structures et des formats, hypertexte, métadonnées, et enfin des pratiques de type annotation, recommandation via réseaux sociaux. L'édition critique se voit donc redéfinie par le numérique depuis une vingtaine d'années, que cela soit sur le plan des formes de publication, de l'évolution des formes d'évaluation par les pairs et commentaires des lecteurs, mais aussi des enjeux culturels, sociaux et politiques qui sont liés au changement de comportement que sur celui de l'accès et le partage des données. Cette redéfinition engendre elle-même bien sûr des questions. On peut notamment penser à l'éthique du partage à l'ère numérique, accès libre, copyleft, ainsi qu'à la sécurité des données ou des protocoles de communication, questions de confidentialité, intégralité, disponibilité. Avec le changement des supports, des modalités de publication et des mécanismes de visibilité, ou moi-même d'accessibilité à l'information et de circulation des contenus, c'est donc l'ensemble de notre rapport au savoir qui se fut remis en question. Notre groupe de recherche a l'ambition de poser et de penser ces questions en rassemblant 15 chercheurs provenant de 8 disciplines différentes qui se distinguent par leur pensée et leur pratique originale de l'édition numérique dans les domaines des humanités. Souhaitant encourager un dialogue entre théorie et pratique de l'éditorialisation, avec une série d'expérimentations basées sur les projets déjà en cours de nos chercheurs, notre groupe de recherche réfléchit depuis 2 ans à travers différents événements aux 2 objectifs suivants. Au plan pratique, dresser un état des lieux des expériences existantes en inventoriant les points forts et les points faibles des outils et des plateformes. Discuter de possibles stratégies de développement, expérimenter l'utilisation d'outils de fouille et de visualisation et intégrer ces outils dans des projets en cours de développement. Au point théorique, cerner l'impact du numérique sur le processus de production et de circulation du savoir. Quel nouveau modèle de lecture-écriture peut-on concevoir pour les éditions critiques au XXIe siècle? Quel dispositif de validation des contenus, mais aussi quel rapport entre chercheurs, communautés scientifiques et le grand public? Le numérique est intégré comme un objet d'étude par de nombreux chercheurs, avec des approches hétérogènes et différentes, mais souvent complémentaires. On peut se poser la question des enjeux de la société numérique et de la communication numérique, de l'impact sur ses comportements, des changements dans les méthodes de composition artistique et littéraire, mais aussi des nouveaux environnements d'apprentissage à l'école, des effets du jeu vidéo, voire même des possibilités muséales et patrimoniales du numérique. Alors que nous nous sommes vite habitués à un accès immédiat à certains types de données grâce à des bases de données et aux moteurs de recherche conviviaux hyper performants et d'apparence exhaustive, je dis d'apparence parce qu'en fait il n'en est souvent rien, l'accès aux connaissances dans les sciences humaines demeure irrégulier et encore relativement artisanal. Seule une faible proportion des publications savantes dans les sciences humaines est numérisée et indexée, surtout par rapport aux sciences. Pour le peu de nom de contenu qui est accessible, le mode d'opération est généralement limité à des recherches simples dans les métadonnées, c'est-à-dire auteur, titre, collection, etc., ou dans certains cas, par mots-clés dans le texte intégral. Les bases de données actuelles ne sont donc conçues que pour la découverte de documents, pas pour leur analyse. Pour cela, il faut faire appel à d'autres outils plus sophistiqués qui sont rarement conçus pour les chercheurs non experts en analyse de textes informatisés. Il s'ensuit toute une série de questions importantes sur la pérennité et la stabilité du contenu, sur les droits d'auteur, accès ouvert ou formes d'expression dans d'autres domaines. Nous soutenons donc une plateforme du savoir à l'ère numérique, en particulier quand elle donne accès à une ou des éditions critiques de différentes natures, doit pleinement intégrer les fonctions de découverte, de lecture, d'organisation, d'analyse et partage via réseaux sociaux, grâce à une nouvelle interface conviviale et accessible à tous. Ce travail ne peut être entièrement laissé entre les mains d'un concepteur d'interface utilisateur, mais doit impliquer des chercheurs universitaires, spécialistes du contenu disciplinaire mis en ligne. En effet, l'utilisateur doit pouvoir constituer de façon souple des corpus de taille variable, afin d'en étudier les tendances et les particularités, ou afin de pouvoir les comparer à d'autres corpus. Ce ne sera qu'à partir de ce moment que nous pourrons envisager la possibilité de mieux faire ressortir le savoir enfoui et latent dans l'immense collection de publications issues des humanités. et dans le contexte francophone, il y a encore plus de travail à faire pour créer et donner un accès convivial à de telles ressources, vu l'avance du monde anglophone où des outils et des pratiques plus avancées, de type data mining ou distant reading, commencent à devenir plus accessibles aux chercheurs qui n'ont pas des connaissances particulièrement pointues. L'intégration de fonctionnalités interactives dans une plateforme de dissémination du savoir évoque, par la même occasion, la possibilité que les auteurs puissent incorporer dès le départ des éléments multimédia supplémentaires dans leurs publications, tels que des graphiques interactifs ou même l'accès aux données brutes. Notre programme de recherche réunit autour de cette question fondamentale des chercheurs qui proposent une approche méthodologique et épistémologique différente. Cela nous permet d'analyser, en gardant toute leur complexité, la production et la diffusion des connaissances et de la culture dans un nouvel environnement numérique, tout en évitant les pirepaillements qui pourraient caractériser l'étude d'un sujet aussi vaste que celui du numérique qui touche à l'ensemble de nos pratiques. Les activités de notre groupe de recherche sont articulées autour de trois axes interdisciplinaires, eux-mêmes articulés autour de ce concept d'éditorialisation dont j'ai parlé. Le premier, intitulé « Nouvelles formes d'émergence et de la connaissance », sous la responsabilité de Vincent Larivière, l'Université de Montréal, s'intéresse à la manière dont le numérique se présente comme un nouvel environnement support qui reconfigure la façon dont la recherche est produite, comment elle est mise en forme et circule dans les communautés scientifiques. Cet axe permettra de faire le point sur des expériences de diffusion numérique des contenus savants, comme Érudit au Québec ou Revue.org en France, ainsi que la collection Parcours numérique, que je co-dirige avec Marcello Vitali-Rossati, en analysant la structure théorique et technique des différentes plateformes et en relevant les enjeux conceptuels et pratiques des choix mis en avant par leurs concepteurs. Nous discuterons ainsi quel est le meilleur environnement propice pour les éditions critiques, pour une plateforme collaborative de constitution de corpus. En même temps, cet axe regroupe des chercheurs qui développent une réflexion théorique sur les enjeux du numérique et sur les changements culturels déterminés par les technologies. Il faudra donc s'interroger plus particulièrement sur l'impact du numérique sur les processus conceptuels. En quoi le numérique change-t-il notre façon de voir, de concevoir et de comprendre le monde ? Le numérique se positionne aujourd'hui, cela ne fait plus de doute, comme un langage universel. Il représente, traduit, exprime la presque totalité des activités humaines. Avant toute autre langue, nous parlons et partageons le numérique. Comment ce prisme nouveau affecte-t-il nos cartes mentales et cognitives ? Comment nous pousse-t-il dans certaines directions sociales, politiques et psychologiques plutôt que d'autres ? Comment, enfin, le processus numérique ont transformé notre relation à des artefacts historiques ? Le deuxième axe du groupe, intitulé « Validation et légitimation des contenus », sous la responsabilité de Philippe Langlais, en informatique à l'Université de Montréal, explore la multiplication des sources et l'intégration de contenus non savants dans la pratique de recherche. Cet élargissement des sources a ouvert de nouvelles occasions pour l'élaboration d'hypothèses de recherche. Cependant, il convient de se demander si ces ressources non savantes permettent de maintenir le niveau qualitatif requis par la communauté scientifique et si de nouvelles stratégies de validation ont été adaptées par les chercheurs pour certifier ces sources. Cet axe explore aussi les pratiques de dissémination et d'éditorialisation qui se sont transformées de manière radicale avec le web sémantique et les nombreux autres bouleversements des régimes de communication numérique tels que l'Internet des objets ou la réalité augmentée. Bien sûr, depuis le XVIIIe siècle, autant l'édition de l'opinion publique que l'édition savante ont connu des bouleversements constants. Le modèle social et économique de la presse, par exemple, en liaison avec le processus de constitution de l'opinion publique et l'organisation de la démocratie, se voit profondément révolutionné sans que l'on sache vers quel nouveau régime d'équilibre le numérique pourra s'orienter. Comme les humanistes de la Renaissance ou les hommes de lettres et philosophes des Lumières, aux prises avec les changements amenés par le développement de l'imprimerie, nous sommes aujourd'hui responsables de la création des modèles de production, de diffusion et de pérennisation du savoir qui seront probablement à la base de ce que sera la société et la culture de demain. Réfléchir donc aux formes d'éditorialisation des contenus est loin d'être un enjeu seulement pratique. Cela demande en amont un travail théorique approfondi qui doit constamment rester en contact avec une pratique en aval. Le troisième et dernier axe du groupe s'appelle « Passage au numérique et recontextualisation » sous responsabilité de Stéphane Sinclair de l'Université McGill, Et cet axe étudie le numérique et les nouvelles possibilités d'exploration de contenu, c'est-à-dire en termes de recherche, de classement, d'analyse et de visualisation. Des méthodes d'exploration encore impensables auparavant, qui offrent maintenant, particulièrement dans les nouveaux dispositifs d'écriture et de lecture. Quel type de mutation appelle la publication ou la republication numérique de documents initialement pensés par d'autres supports ? Quels sont aussi les enjeux culturels, sociaux et politiques liés à ce passage ? Si on pense à l'intelligence artificielle ou l'explosion des technologies reliées à ce fameux Big Data, quel sera leur impact sur l'exploitation et la compréhension de ces contenus, puisqu'il existe maintenant des logiciels qui lisent des centaines de milliers d'articles à la fois pour en extraire de nouveaux contenus et créer de la nouvelle information. Cet axe réunit plusieurs chercheurs actifs dans le développement et l'utilisation d'outils informatiques conçus pour la création et l'analyse de la diffusion du savoir dans les humanités, avec comme ambition principale de renforcer et d'accompagner les transformations médiatiques en cours dans les recherches en sciences humaines, du texte imprimé toujours dominant dans le support numérique, tout en optimisant les bénéfices de son potentiel interactif et analytique. Les axes que je viens de présenter ont été conçus d'une manière flexible afin de maximiser la collaboration des chercheurs au sein de l'équipe, mais aussi d'intégrer de manière significative des étudiants à plusieurs niveaux. Les membres de notre équipe considèrent en fait que la formation à la recherche est une composante essentielle des activités de notre groupe et nous dédions une importante partie de notre budget annuel aux étudiants sous la forme d'assistants de recherche, de bourses de recherche ou d'activités de formation technologique qui leur sont directement réservées. Nous visons donc la formation des étudiants autant sur un plan pédagogique, partage d'un cursus distribué en humanité numérique par exemple, que pratique. En effet, l'intégration du numérique dans les pratiques de recherche ne progresse pas au rythme de l'adaptation des technologies dans la société. Ces limitations se situent bien sûr du côté technologique, accès et connaissance des technologies disponibles, mais également conceptuel, puisque le numérique offre de nouvelles avenues de recherche. Et si le numérique représente un facteur attractif pour certains dans la communauté, il faut assurer une capacité d'encadrement et de regrouper les forces vives du secteur afin de bénéficier de l'effervescence suscitée par ce sujet. Il y a à présent au Québec une absence d'expertise numérique dans les programmes de formation dites classiques en sciences humaines, ce qui entraîne la nécessité de l'existence d'une équipe comme la nôtre pour donner aux étudiants à ce nouveau champ des outils de recherche dans le contexte de notre société du numérique. Les différentes activités de l'équipe contribuent donc au développement professionnel de ces étudiants, avec comme idée maîtresse d'enrichir leur formation tout en leur laissant suffisamment de temps pour compléter leur mémoire et leur thèse. Le but général de la formation à la recherche se situe donc à deux niveaux. Cultiver les connaissances et les talents des étudiants et leur permettre de s'établir comme chercheurs indépendants. Sous la direction des membres de notre équipe, les étudiants acquièrent régulièrement toute une panoplie d'outils théoriques, analytiques et pratiques qui leur sont grandement utiles pour leurs études et ils ont aussi l'opportunité de présenter les résultats de leurs travaux durant les rencontres mensuelles de notre équipe et de bénéficier évidemment de l'interaction des conférenciers invités que nous recevons tout au cours de l'année. Notre équipe de recherche a été conçue de manière institutionnelle afin de refléter la maturité des humanités numériques au Québec avec une masse critique de chercheurs provenant de 3 institutions montréalaises. Les chercheurs impliqués dans l'équipe présentent un taux d'activité fort élevé dans ce secteur avec des professeurs à différents stades de carrière, de nouveaux professeurs à professeurs titulaires avec plus de 20 ans d'expérience. Ils ont aussi déjà été impliqués dans de multiples collaborations autour d'activités principalement de diffusion, tels que des ateliers ou des séminaires ou colloques. L'appartenance disciplinaire des chercheurs est distribuée elle aussi au sein de départements de littérature, communication, informatique ou philosophie des sciences, par exemple, et rassemble un ensemble d'expertises diversifiées et parfaitement adaptées à l'étude des éditions critiques en contexte numérique. Nos chercheurs se sont illustrés à différents stades de leur carrière dans diverses approches des humanités numériques, tant du point de vue théorique, que ce soit la conception du numérique ou l'analyse critique, qu'appliquée. Je mentionnerai ici l'outil Voyant Tool de Stéphane Sinclair, par exemple. Cet arrimage vise à permettre d'établir un lien direct entre réflexion théorique et développement d'outils testés et implémentés concrètement sur une plateforme de diffusion. L'observation résultat de cette implantation et de l'usage subséquent vient ensuite nourrir elle-même l'évolution du théorique. Le grand bénéfice de l'équipe est donc d'amplifier et de structurer des collaborations à un moment crucial dans le développement des humanités numériques et de la pensée sur les éditions critiques en contexte numérique. Bien plus qu'un ajout incrémental, il s'agit d'une convergence multidisciplinaire et d'un effort concerté dont les résultats auront un impact important tant au Québec que sur le plan canadien et international. En conclusion, je mentionnerai aussi notre arrimage étroit avec les milieux pratiques dans le document numérique, en particulier avec le consortium Érudit au premier plan. Érudit, qui est logé à l'Université de Montréal, rassemble en un seul point près de 150 éditeurs canadiens universitaires et culturels. Le lien d'Érudit avec notre groupe de recherche permet de participer directement à la transformation de la production et de la diffusion du savoir en mettant en place des expérimentations tel un nouveau prototype de format EPUB d'édition critique au sein de la plateforme d'Érudit, mais aussi de nouveaux dispositifs, tout en permettant le travail d'observation de ces dispositifs et des usages qui en sont faits. La proximité de l'expertise de l'équipe d'Érudit dans l'Université de Montréal facilite de plus le travail technologique nécessaire à ces collaborations. Notre travail s'appuie donc sur la présence d'une plateforme de recherche partagée qui est déjà fortement implémentée dans la communauté nationale et internationale, puisqu'Érudit est présente dans tous les pays francophones du monde et existe depuis maintenant pratiquement 17 ans. La synergie de notre équipe permet donc de donner une meilleure visibilité au succès remarquable des chercheurs québécois dans le secteur, et Érudit en constitue une garantie concrète. Le regroupement des chercheurs spécialisés dans les unités numériques autour de cette plateforme donne automatiquement une visibilité à notre équipe, permettant ainsi de tirer avantage des investissements majeurs déjà consentis au secteur de la recherche et des technologies numériques, notamment par le gouvernement du Québec. Merci.
Merci beaucoup pour cette intervention dense qui aura, je l'imagine bien, suscité chez vous un grand nombre de questions et d'interrogations. Et là, alors, c'est à vous. Ah.
C'est dans un contexte, je vais rester plus devant le micro, de cette notion du document. Le réel autour de nous est effectivement mouvant, mais jusqu'à l'avancement du web en particulier, on avait une notion de fixité et de stabilité du document. Je vous renvoie aux travaux de Jean-Michel Salin en particulier sur la question de cette stabilité du document qui a été bouleversée par l'implémentation d'une plateforme qui n'est plus redevable d'une forme de continuité. À partir du moment où même cette image de fixité et d'édition, on peut évidemment penser qu'il peut avoir 17 éditions du même ouvrage, ou on peut penser aux journaux qui étaient publiés le matin et changés le soir, mais il y avait un rythme qui était différent et un rythme qui aussi impliquait un réel qui était fixe de par la notion d'impression. Donc dans le contexte des éditions savantes et de la pensée un peu du savoir plutôt académique, c'est ça qui change. C'est que non seulement que les choses rebondissent beaucoup plus vite, mais qu'on a aussi une difficulté à conserver des traces, puisque même un site comme le Internet Machine Archive donne des copies d'écran disponibles, mais pas toutes les pages, et celles-ci sont mises à jour constamment. Donc en fait, cette nouvelle réalité est ce qui a un impact un petit peu, évidemment, et chamboule des habitudes scientifiques de chercheurs qui ont plusieurs, maintenant centaines d'années, de se référer à une notion fixe. Évidemment, quelque part, on pourrait dire qu'on revient à un système pré-imprimerie où les échanges au niveau de l'oral étaient eux-mêmes basés sur des histoires racontées, changées, modifiées en cours de route. Donc c'est un petit peu soit cyclique, soit un retour à une autre forme d'implémentation justement de cet aspect oral qui est aussi remplacé par les vidéos et d'autres aspects. l'autre notion un petit peu difficile pour ce mouvement d'action et de réaction, c'est la difficulté de quantifier à l'heure actuelle avec les outils que nous avons, justement cette masse d'informations qui change aussi quand elle n'est pas textuelle. Donc on est aussi dans un moment où le texte en ligne reste un texte auquel on est non seulement habitué, mais on a des outils qui nous permettent de le capturer, de l'analyser, de le chercher. Dès qu'on commence à mettre du son et des vidéos, les outils arrivent. Google travaille très fort pour nous permettre de comprendre le monde encore plus qu'ils se mettent en avant de le faire. Mais on n'est pas encore à ça. Et évidemment, tout le monde a les statistiques qui changent chaque jour, que chaque minute où je parle, il y a une vie qui vient de se mettre en ligne sur YouTube qu'on n'aura pas le temps de voir. Donc ça devient une masse d'informations qui a explosé beaucoup plus forte que évidemment la partie textuelle. Donc encore une fois, cette notion constamment de... Et Maurizio Ferraris, dans un ouvrage intitulé « Âme et iPad », parle aussi un petit peu de cette idée que nous remplaçons et nous arrivons à un nouveau moment où vous allez avoir une mémoire cognitive traditionnelle dans votre tête et une dans votre poche. Et donc maintenant, c'est nouveau la complémentarité. On a vraiment cet aspect que on a non seulement la bibliothèque virtuelle dans la poche, mais on a aussi les manuels pour préparer un repas, pour apprendre à faire du vélo, pour remplacer tout ce qui change. Et évidemment, même ça est mis constamment en mouvement.
Alors, je vous ai allumé la lumière au milieu parce qu'il me semblait bien que vous étiez un peu dans le noir, alors comme ça on vous voit mieux. Oui.
Alors, principalement pour la première phase de l'équipe, donc c'est un financement de 4 ans que nous poursuivons, c'est l'introduction à des outils. Donc c'est cette vision des humanités numériques comme outil complémentaire d'une discipline, quelle qu'elle soit. On travaille en sciences humaines principalement, donc comme je l'ai mentionné, des gens d'histoire de l'art ou de littérature ou de philosophie, qui n'ont pour la plupart jamais joué avec Gephi ou jamais utilisé un outil d'analyse de texte ou de visualisation de leurs données. Donc en fait, principalement, c'est des ateliers pratiques pour mettre un peu les mains dans le cambouis. Ils viennent avec leurs données ou leurs projets et on explique comment faire un peu de localisation géospatiale et de réfléchir à ça. Donc c'est principalement à ce niveau-là. Pour des questions de continuité, il y a après toute une série de cours offerts dans différentes universités à Montréal où les gens peuvent suivre des formations plus spécifiques. Ils peuvent aller prendre un cours avec Andrew Piper à McGill ou Stéphane Sinclair qui donne des cours sur l'utilisation avancée où là ils vont faire ils vont travailler avec Python, ils vont apprendre des langages de programmation pour eux-mêmes constituer des bases de données qu'ils pourront analyser. Donc en fait, c'est un petit peu à deux niveaux, la partie plus théorique de comprendre la disponibilité de ces outils, mais même parfois de comprendre d'une manière assez simple la structuration des données, même dans un objet comme Word ou Excel, et ce qu'on peut faire avec des choses qui sont devenues un petit peu explicites sur tous les portables des étudiants. Donc comprendre que c'est un peu plus fort déjà en possibilité là, et après regarder comment, pourquoi c'est intéressant de penser à du LaTeX plutôt que penser à du Word pour comprendre les différents langages de programmation et ouvrir. On laisse ça évidemment aux besoins des étudiants. Certains étudiants, des collègues de l'UQAM arrivent en ayant suivi un double cursus informatique et sciences cognitives. Donc eux généralement viennent et regardent ça en souriant parce qu'ils ont déjà beaucoup travaillé avec ce background informatique, et d'autres découvrent les outils pour la première fois avec une approche beaucoup plus petite boîte de recherche Google où on peut avoir toutes les réponses du monde en tapant quelques mots, ce qui marche plus ou moins évidemment dans certaines disciplines. Oui. C'est l'idée, oui, peut-être que nouvelle version n'est pas vraiment le terme que j'aurais utilisé, on va dire l'implémentation d'un format EPUB pour Erudit est nouveau pour eux à l'heure actuelle. Si vous regardez sur leur plateforme, ils sont disponibles en HTML ou en PDF pour tous les contenus qu'ils ont. Et donc ils sont eux-mêmes en train de voir comment faire des EPUB pour des revues savantes, un peu on dirait on the fly en anglais, donc de pouvoir constituer soit par numéro, soit en cochant différents articles, et constituer donc un EPUB fait à partir de leur XML et de la chaîne de traitement qu'ils ont. Et évidemment, pour les questions d'édition critique, on regarde à comment est-ce qu'on pourrait implémenter cet outil-là qu'ils sont en train de développer qui est prévu pour un contexte en fait qui ferait recueil de livres comme approche, et se dire ok, bah, si on met au cœur de ce recueil une édition critique avec notes de bas de page et tout le format, un peu l'apparatus traditionnel, comment est-ce qu'on pourrait essayer de le modifier en pensant aux limitations physiques du format EPUB quand on commence à jouer un peu avec, et quand on regarde avec les différentes plateformes disponibles, où Apple essaie de faire ses choses avec son iBook Authors pour une meilleure intégration des contenus multimédia. Donc c'est un peu une phase exploratoire avec Erudit qu'on regarde avec eux, surtout dès qu'on veut faire un petit peu des choses qui seraient aussi mises à jour, et des possibilités de modification par l'utilisateur. Donc c'est aussi un petit peu repenser à comment l'EPUB devrait ne pas être fixe quand il serait mis à disponibilité. Non, c'est ça. Ce serait un format enrichi de ce format-là.
Moi, j'avais une question, du coup, j'en profite comme c'est moi qui ai le micro. Je rejoins sur la toute première question sur cet aspect d'instabilité permanente. Du coup, on voit bien que même les unités de mesure de base existantes dans le monde de l'édition jusqu'à présent s'effondrent, parce que la notion de page a du mal à survivre, la notion d'exemplaire encore plus, la notion de numéro de revue. Effectivement, si on peut combiner à la volée des textes pour en faire un numéro tout à fait original et personnel, ben, ça marche pas non plus. On voit bien que cette définition de l'unité de base disparaît. Du coup, ça pose, enfin, si on combine tous ces aspects, on voit bien que pour tous les acteurs de la médiation, alors moi j'ai en tête les bibliothèques, mais pour les autres, entre instabilité du support, non définition de l'unité de base et instabilité, on va dire, des lieux d'accès, enfin des modalités de consommation. Est-ce que dans votre groupe, dans ton groupe, la question de la médiation documentaire, pour l'édition en tout cas, elle est abordée? Comment est-ce que vous voyez ça?
On n'a pas vraiment quelqu'un qui travaille sur cette thématique-là à proprement parler, mais on se demande effectivement plutôt dans quelle mesure l'orientation des outils de découverte devient aussi important, encore plus que les outils de visualisation. Puisque si cette visualisation est peut-être modifiée suivant le type de plateforme, suivant l'implication personnelle des gens, donc ça devient vraiment, et en partie, comme tu le dis, avec le travail des bibliothèques, de repenser comment est-ce qu'on s'assure que l'utilisateur peut avoir un bon accès à tout ce qui est disponible. Puisqu'on s'éloigne d'une table des matières, on s'éloigne d'une notion donc soit de numéro, soit de première édition, deuxième édition, de contenu mouvant. Dans la plateforme Parcours Numérique, on a essayé un petit peu de réfléchir à ça en ayant une partie texte, une partie note prévue par l'auteur, une partie contenu supplémentaire qui peut contenir un peu tout et n'importe quoi, et qui évolue beaucoup plus vite que les deux autres sections. Mais même là, c'est toujours un peu cette partie, encore une fois, d'une construction manuelle. Il n'y a pas d'enrichissement automatique, par exemple. Et maintenant qu'on va vers de plus en plus de données massives, il va falloir laisser le pas aux machines encore plus qu'on le fait maintenant. Et ce n'est pas en soi une mauvaise chose tant que les machines comprennent les questions qu'on voudrait qu'elles nous répondent, et qu'on pose nous-mêmes encore les questions. La partie active, c'est ce qui permet aussi, d'une manière intéressante, c'est de rendre la transformation un petit peu de ce modèle féodal que nous avons à l'heure actuelle, où je vous parle, vous me regardez, pas toi, mais les autres. Et au début, quand je parlais justement de cette notion de lecture, où il y avait non seulement un temps de délai entre la production et l'accès, mais aussi entre le retour, à part écrire les notes de l'éditeur ou envoyer une lettre de fan, d'un fan club à un auteur particulier. Maintenant, évidemment, la dynamique change, y compris la construction potentielle des retours, voire un petit peu cette notion de co-créateur, d'où je mentionnais le groupe de recherche à Paris en écrit-lecture, où on commence un peu à repenser à ces marges-là. Ça se fait beaucoup dans le monde de la fiction et des objets un petit peu dits non scientifiques, et bien la création devient comment est-ce qu'on essaie de changer une institution qui en elle-même est basée sur l'idée de j'ai un savoir que je donne aux autres, qui en ont peut-être un aussi et qu'on a en retour, et puis peut-être que je le prends en part, ou peut-être que vous prenez mon savoir pour faire autre chose. Mais il y a toujours cette idée un petit peu de, pas tant de hiérarchie que de traçabilité des différentes étapes. Vous citez des gens dans vos notes de bas de page, donc vous faites référence à une autorité précédente. La notion d'autorité change quand on commence à devenir à la fois créateur et lecteur dans le même instant. Et donc, quand je parlais par exemple du format EPUB, de pouvoir reconstituer un volume veut dire que vous vous mettez vous-même à la place du rédacteur en chef, qui avait décidé que c'était article 1 avant article 2 avant article 3, peut-être pour une thématique qui était intéressante de penser d'abord le classique, l'article background, puis après l'article qui vous donne les bases historiques, et vous avancez en détail. Et vous pouvez refaire tout ça. Et cette notion un petit peu d'ingérence était la même que si vous repensez au début des sites de musique en ligne comme iTunes, où la vente par chanson avait été critiquée par les compositeurs et tout ça, qui disaient « j'ai pensé mon album, j'ai pensé que la chanson 3 venait avant la chanson 2 », et là vous chamboulez tout, parce que quand on le faisait avec le vinyle, ça abîmait les choses de déplacer l'aiguille pour faire 3, 7, 1, c'est devenu plus facile avec les CD, et c'est devenu encore plus facile quand on n'avait plus besoin d'avoir un support traditionnel, physique. Et donc là, en fait, la partie imprimée et la notion de la communauté scientifique se fait rattraper un petit peu par ça, où maintenant, les étudiants peuvent faire, ou les professeurs peuvent faire des recueils en envoyant, reconstituer quelque chose avec des articles, et à demander à des étudiants d'annoter, enfin je sais que je fais ça avec Jean-Michel, d'avoir un article qui est annoté, les annotations sont elles-mêmes partagées avec le reste de la classe, donc vous devenez vous-même à la fois un lecteur d'un article, mais l'auteur de notes activement, et généralement c'est souvent pour des questions de copyright limité à une classe ou un échange, et ça disparaît à la fin du cours, mais on pourrait penser aux annotations pour ceux qui lisent sur Kindle, les soulignements des autres personnes. Si vous choisissez que vos soulignements soient partagés avec le monde, vous voyez les leurs et ils voient les vôtres, et donc là vous rentrez vous aussi dans une notation d'une communauté scientifique, puisque vous mettez en avant un passage que vous préférez pour une raison X ou Y, et là on n'a pas encore le partage des notes, mais certaines nouvelles plateformes chez Taylor & Francis par exemple pour leur publication de revues vous proposent d'annoter des PDF et le choix de les mettre visibles au public, ce qui fait que maintenant quand vous allez sur leur plateforme, vous pouvez télécharger un PDF statique, la version imprimée traditionnelle, ou un PDF interactif, où là, vous avez créé un compte utilisateur, vous avez vos propres notes, et vous pouvez voir les notes des autres et tout ça. Donc, encore une fois, on crée un peu cette nouvelle communauté d'utilisateurs, et la barrière entre utilisateurs-créateurs commence à changer, même dans le milieu scientifique.
Ce qui renforce encore davantage l'instabilité documentaire, parce qu'au final, on le voit bien quand tu dis qu'on peut annoter avec Jean-Michel des documents. En fait, on a en gros un document qui est un néo-document dont on ne sait plus quoi faire une fois que le cours est fini. Avant, on en aurait gardé... La question se pose même d'un point de vue purement administratif. On a une obligation légale de conserver les copies, je ne sais plus combien d'années, en cas de recours et de choses dans le genre. Et du coup, pour tous les exercices numériques, on espère qu'on n'aura jamais de recours parce que, de fait, la nature même du document rend sa conservation complètement aléatoire, dans le meilleur des cas. Donc, on le voit avec les travaux qu'on fait avec Jean-Michel, on se retrouve avec des documents qu'on garde d'une façon plus ou moins fiable, mais. Là, on a dû changer de plateforme de notation parce que l'autre a fermé. Ben, de fait, ça a disparu. Voilà.
Et là, évidemment, ça ouvre la porte à toute la partie archivistique et la pérennité des données. Parce que si on crée du nouveau savoir scientifique, encore une fois, il faut quelque part, il y a une idée de pérennité qui va disparaître en même temps, ou potentiellement disparaître. Bon, si l'Internet disparaît demain, on va tous avoir des problèmes, mais en particulier ce genre de contenu-là.
D'autres questions ? Les anciens étudiants ont le droit de poser des questions aussi.
Oui.
Oui.
Et c'est le problème de la personnalisation de ces données-là et du fameux un petit peu le côté aléatoire. Mais c'est de la même manière qu'on ne va plus sur les étagères dans la bibliothèque, ou très rarement maintenant, et donc vous cherchez le livre en cherchant sur l'étagère et vous voyez au passage deux autres livres qui sont en fait beaucoup plus intéressants, mais qui s'appellent autrement. Alors évidemment, si c'est bien fait, le travail des bibliothécaires est bien fait, quand vous faites votre requête, ils vont vous proposer ces deux ouvrages-là qui n'ont pas de titre en rapport, qui se trouvent aussi dans la même. Et on parlait ce matin avec Benoît des nouvelles possibilités, évidemment, de réfléchir à des environnements d'interaction qui font qu'on découvre d'autres choses grâce à ça. Mais ce que vous gagnez, évidemment, sur papier, on va dire, enfin, sur papier, en principe, c'est une plus grande richesse. Qui est compensé par, encore une fois, on a les problèmes de stabilité, mais on a le problème de vitesse. On a le problème que si auparavant on avait 12 revues dans le 19e britannique, j'arrivais à les consulter. Si maintenant les gens font du 19e britannique à droite, à gauche et au milieu, en plus des 12 revues qui sont devenues 25 revues, qui publient plus qu'avant, et pour différentes raisons économiques, expansion du lectorat et tout ça, vous avez une surenchère un petit peu de ces données-là. Donc l'aspect de personnalisation peut être une épée à double tranchant qui permet donc à la fois d'avoir un contenu qui est plus intéressant. C'est de la même manière que des collègues en analyse sémantique travaillent non pas tant à vous trouver des articles dans leur algorithme de recherche, mais à vous trouver le paragraphe qui va vous intéresser dans l'article. Donc pour même pas lire l'article dans son ensemble, mais que sur les 22 pages de l'article, il y a un paragraphe qui parlait de l'instabilité du mouvement. Et la machine va vous faire ressortir ce paragraphe-là. Si évidemment ça vous intéresse, vous pouvez aller plus loin. Mais il y a vraiment un changement. Et c'est en lien direct avec le fait que si on vous donne juste l'article, il va déjà falloir que vous lisiez les 23 pages pour le trouver. Donc c'est la question de mise à l'échelle. Donc c'est ces fameuses données massives qui changent ça. La personnalisation aussi des contenus par rapport au choix, évidemment, transforme, comme je disais tout à l'heure, la notion d'interaction aussi beaucoup plus différente, où vous n'êtes plus justement passif à recevoir une table des matières qui, parfois, dans un numéro spécial, est généralement cohérente. J'ai dit une revue depuis 20 ans, quand on a un numéro ouvert, vous les mettez plus ou moins quel moment ils ont été prêts au niveau de la mise en page et des choses comme ça. Et donc l'article 1 vient avant l'article 2, parfois sans aucun rapport l'un à l'autre. Et donc l'auteur ne se sent pas mal d'avoir été le sixième article de la revue. Il n'y a pas un déclassement du contenu, plus ça va, moins c'est intéressant ou l'inverse. Et pour le lecteur, après, on survole ça. C'est donc... mais c'est quelque part en fait un petit peu, et c'est de la même manière avec l'accès à ces données massives quelque part, c'est pas tant de dire qu'on perd quelque chose, mais on perd toujours quelque chose quand on gagne quelque chose. Il y a aussi une réalité du fait que avant il fallait commander un livre par pré-interbibliothèque et parfois attendre littéralement 3 semaines avant qu'il arrive. Maintenant je fais une référence, si je vous avais fait des diapos, vous auriez pu avoir les slides interactives avec le lien live et regarder, puis pouvoir en direct récupérer tout ça. Donc c'est un petit peu le bonus, c'est la difficulté. C'est plus que, d'un point de vue scientifique, ce qui intéresse un peu le sujet de l'équipe, c'est est-ce qu'on peut vraiment aussi repenser le genre le plus peut-être quelque part canonique que l'édition critique, qui elle-même n'a pas exactement la plus grande cote. J'imagine qu'aucun d'entre vous petit s'était dit je vais faire une nouvelle édition critique des œuvres de Rimbaud parce que j'aime les poèmes de Rimbaud. C'est pas vraiment comme ça qu'on tombe dedans. Les questions de genèse, historiographique et tout ça, c'est un peu plus tard que vous arrivez. Vous avez peut-être voulu être poète, mais pas forcément éditeur critique de poésie. Donc tout ça aussi change, ou maintenant quelque part les possibilités, quand vous pensez à un site comme Pinterest, pour ceux qui aiment tout ça, vous êtes vous-même devenu éditeur. Vous choisissez du contenu, vous mettez les images en ligne, parfois vous mettez des légendes à ces images. Et donc en fait, le lien devient justement, bon ben, on a des images, on a du texte, Facebook est quelque part aussi une édition critique permanente, puisque sur Facebook, vous choisissez de vous éditorialiser. Vous mettez en avant du contenu que vous choisissez, d'autres personnes peuvent l'annoter en faisant des commentaires, vous avez tout un enrichissement des contenus. Et donc après, c'est cette frontière qui change un petit peu. Vous avez raison. Dans le même temps, il y a à la base de ces projets, et pour ceux qui sont actifs sur ces plateformes, la possibilité de contribuer à un truc. Donc j'entends aussi au sens d'éditeur où vous choisissez, on peut vous proposer comme les systèmes vous le fait, vous allez aimer les choses suivantes, la dérive algorithmique d'Amazon, mais c'est votre choix si vous allez mettre un pin sur cette photo ou pas. Et si vous mettez une légende et vous rajoutez quelque chose qui n'est pas fait automatiquement par la machine, c'est là où vous avez une intervention humaine. Elle devient de plus en plus limitée et quelque part, évidemment, la popularité du bouton « j'aime » sur Facebook, qui vient d'être adapté sur Twitter d'une manière assez surprenante. Maintenant, on va avoir des petits cœurs sur Twitter aussi pour aller plus vite que d'avoir un favori. On est devenu à la version iconographique à la Facebook de base. Permettez cette notion de participation à deuxième niveau où vous ne faites pas de commentaires, mais en faisant un j'aime, vous faites quand même un commentaire sur ça. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison que la construction algorithmique de ce qu'on vous propose n'est pas du tout neutre. Mais c'est de la même manière que ce que vous cherchez dans Google n'est pas neutre. Et c'est là encore une fois où on aimerait penser, et j'arrête à me tourner vers Benoît pour les formations qu'il fait avec les bibliothèques, que les bibliothèques, elles, resteraient neutres de par Elsevier qui vous vend un package en disant « je mets mes reviews en avant, les miennes sont meilleures que les vôtres ». Donc si vous cherchez un contenu, par hasard, c'est celles d'Elsevier qui vont sortir sur le haut de la recherche, une bibliothèque devrait, dans mon sens, rester un endroit neutre où justement cette pluralité de contenu pourrait être mise en avant, où là ça devient un petit peu une autre question de comment est-ce que le bibliothécaire fait son travail pour faire la même chose, pour pas vous dire « ah ben j'ai 17 000 articles à lire pour vous », mais pour vous dire « j'en ai 170 par exemple ». Dans quelle mesure le bibliothécaire a réussi à faire un petit peu ce travail-là avec justement ses contraintes à il ou elle de négocier ses autres plateformes.
Pour compléter sur cette question de la personnalisation, dans une conférence de Dominique Cardon, pas la dernière mais celle d'avant qu'il avait donnée ici, il évoquait sa problématique de la recommandation algorithmique en disant que la dernière fois qu'il avait voulu acheter un appareil photo sur le web, il avait subi des publicités. En gros, Google ne lui montrait le web qu'au travers du prisme de ses recherches précédentes qui étaient appareils photo. Et il disait, par définition, ça ne m'intéresse plus puisque une fois que je l'ai acheté, toutes les publicités qui continuaient à remonter, les propositions qui continuaient à recevoir, l'irritaient au plus haut point parce qu'il disait, évidemment que je n'en ai plus besoin. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est de montrer qu'aujourd'hui, il devient quasiment impossible de sortir, de naviguer sur le web d'une façon non personnalisée. C'est-à-dire que tous les outils qu'on utilise, du moteur de recherche le plus basique jusqu'aux réseaux sociaux qui en sont l'archétype, s'inscrivent dans une forme de personnalisation. C'est-à-dire qu'il est extrêmement compliqué aujourd'hui de trouver un refuge de neutralité qui permette d'interroger selon une forme d'algorithme pur, on va dire, et encore Dominique ne sera pas d'accord avec cette définition, mais pur, un corpus documentaire, à part, j'ose espérer, dans les bibliothèques. C'est-à-dire que c'est le seul lieu dans lequel, quand vous tapez un mot-clé dans un catalogue, la réponse correspond au mot-clé. Ni à votre historique de recherche, ni à je sais pas quoi, à vos amis sur Facebook, ou à ce que vous avez liké. Sauf si vous utilisez, si la bibliothèque ne fait que vous renvoyer vers les plateformes des fournisseurs. À ce moment-là, c'est fichu, on retombe sur la problématique de départ. Donc, je maintiens ce que je dis sur les bibliothèques.
Oui, mais en même temps, les bibliothèques elles-mêmes, pas pour attaquer les bibliothèques maintenant, mais essaient d'émuler un environnement auquel les utilisateurs sont habitués, parce que sinon, tu vas sur Google pour faire des recherches, qui va te renvoyer au PDF de l'article. Parce que les fournisseurs, surtout dans le privé, sont très bons pour mettre leurs choses disponibles par les moteurs de recherche de Google. Donc, en fait, quelque part, il y a aussi, c'est pour ça qu'on parlait ce matin, pour les questions de statistiques d'usage, est-ce que les gens utilisent autant qu'avant les moteurs de recherche dans les bibliothèques pour faire une recherche sur une thématique X, quand ils peuvent aussi s'essayer sur Google, et puis la première fois, ils se rendent compte que, pour moi, c'est un peu kiff-kiff de l'un à l'autre, quoi. Ils ne se rendent pas forcément compte de tout ce qui est derrière. Pour le point peut-être par rapport à l'héritabilité de Dominique Cardon, mais là c'est aussi la version peut-être plus américaine que française, de comprendre que le capitalisme américain est par défaut de te montrer ce que tu n'as pas et que tu veux donc avoir. Donc même si tu as déjà un appareil photo, il y en a forcément un de meilleur qui est déjà sorti entre-temps, donc c'est cette idée que tu dois continuer à pousser à l'achat. Donc on te le montre vraiment, mais on te met le nez dedans, que tant pis, il y en a déjà un nouveau qui est mieux, et donc revends le tien, et généralement, ce genre de site-là, il a peut-être pas fait attention, mais on te propose aussi des sites de vente d'occasion. Oui. Donc tu peux déjà, toi aussi, sur la même page, vendre ton ancien appareil et en acheter un nouveau, avec deux publicités différentes pour encourager un petit peu ça. Quoi.
C'est ce qui l'énervait en disant, il suffit que j'achète pour que Google me fasse regretter mon achat en me disant, t'as pas choisi le bon, il fallait en prendre un autre.
Peut-être un autre aspect qu'il faudrait penser autrement, d'Antoine Casilli ou la question qui veut aussi travailler là-bas. Mais une autre chose aussi qu'il faut penser par rapport à ces recherches et ces recommandations, c'est l'évolution d'Amazon justement par rapport à ça. J'ai des nièces et neveux et il y a 10 ans, Amazon, effectivement, une fois que j'avais acheté une BD pour ma nièce ou ma fille, me proposait beaucoup. Et l'algorithme a évolué et se rend compte que ce n'est pas juste d'en avoir acheté un qui fait que ça devient. Il est devenu un peu plus littéralement intelligent. Pour comprendre qu'on peut voir dans un contexte que si sur 20 livres achetés, il y en avait 10 en humanité numérique, 5 sur le cinéma et une BD pour enfants 5 à 7 ans, peut-être ce n'est pas la peine de me pousser d'autres dans ce sens-là. Et il y a 10 ans, il faisait aussi des recherches beaucoup plus simplifiées sur si toi tu as acheté ça, on va te donner plus. Maintenant, ils ont élargi le pool de données. En sachant qu'un homme dans la mi-quarantaine a donc probablement des enfants ou des nièces, et donc c'est de l'occasionnel. Et donc ça change un petit peu par rapport à ça.
D'autres questions ? Oui.
Oui, oui. Et ça devrait être. Je soumets une version article de ça, donc ça devrait être sorti en début d'année.
Oui.
C'est la partie prospective. Ça va être mis en place dans l'année qui vient. Donc en fait, eux, ils ont déjà évidemment leurs outils d'analyse sur leur plateforme, des utilisateurs qui lit quoi, comment, qui vient d'où, enfin l'analyse à la Google Analytics un peu traditionnelle. Et ce qu'on voudra voir avec eux, c'est justement quand on va créer ces nouvelles éditions critiques en ligne avec du référencement érudit intégré, dans quelle mesure ils vont avoir une hausse de la fréquentation de leur côté et ou à l'inverse, la possibilité d'automatiser toutes les notes ou si un de nos éditeurs met une note qui renvoie un article dans Erudit, qui pourront automatiquement faire un renvoi en retour chez eux en disant vous avez lu cet article-là, il est mentionné dans une édition critique 2. Et donc l'idée étant évidemment, pas qu'on a 50 éditions critiques qui vont être disponibles dès l'an prochain, mais c'est toujours penser dès le début la question de volume et d'automatisation. Quelque part, en fait, mon rêve, pas entièrement feignant, mais on m'a déjà fait remarquer que je semblais passer mon travail à la machine, ce serait de pouvoir être des annotations automatiques comme éditeur. Donc, c'est-à-dire que je fais mon édition et il y a deux articles qui sortent dont je ne suis même pas au courant et c'est la machine qui me les ramène en disant ce serait bien de les rajouter dans l'édition critique parce qu'ils parlent de la thématique qui est en lien avec une validation éditoriale à faire, mais de penser comment un processus semi-automatisé pourrait enrichir ça avec, encore une fois, des questions d'échelle. On ne peut pas suivre tout ce qui se fait entre revue.org et Erudit. Ça fait beaucoup de revues qui sont publiées chaque mois, sans parler de Cairn et d'autres. Et donc, l'idée serait de pouvoir réfléchir à un processus semi-automatique d'annotation avec cette idée de validation éditoriale à faire, de déplacer le travail intellectuel qui, parfois, était en fait une... Et c'est ce que vous faites dans certains... travaux, vous avez une partie, peut-être pas à l'ANSIP, mais pour mes étudiants certainement, il y a une partie du jeu, c'est montrer que vous avez fait vos travaux. Donc vous avez passé quelques heures à trouver des références en ligne, vous faire des choses comme ça. Quoi. Donc vous avez constitué une biographie qui devrait s'appeler « J'ai réfléchi à la thématique de mon sujet ». Donc j'ai regardé, j'ai constitué une référence. Donc évidemment, ça quelque part devrait changer avec l'accessibilité des données où on ne devrait pas avoir des bons points pour avoir fait du travail en bibliothèque. Puisque maintenant on pourrait constituer une telle bibliographie en quelques secondes, si c'est pas enfin, quelques minutes, si c'est pas quelques secondes, mais c'est de changer un petit peu pourquoi cette donc les bibliographies annotées deviennent aussi plus intéressantes. On commence à travailler avec les étudiants sur le rapport entre le référencement et le référencement annoté.
Pour compléter là-dessus, moi je trouve que ça ouvre la question des compétences en fait. C'est-à-dire que on a discuté un peu à l'occasion de la conférence de Pierre Merclé l'autre jour sur une recomposition de la chaîne de compétences dans le domaine de l'édition. Il y a un terme que tu n'as pas utilisé ici, c'est digital literacy ou quelque chose qui serait compétence informationnelle. Alors je sais plus, on en a parlé en cours, on a parlé d'alphabétisation numérique, je crois, on avait retenu ce terme-là. Parce que du coup, j'ai l'impression de revoir venir une problématique un petit peu récurrente, c'est-à-dire que l'évolution de la diffusion d'une forme de savoir-faire, pas inné, mais assez largement répandu, fait que les compétences métiers pourraient évoluer à chaque fois un peu contraintes et poussées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des cours, vous avez des cours sur la recherche d'informations. Voilà, c'est un enseignement qui fait partie d'une activité qui correspond à une compétence de veille et de recherche documentaire. C'est quelque chose qui pose chaque année des questions. Est-ce que c'est encore une compétence métier ou est-ce que c'est une compétence répandue, un peu comme maîtriser Word à une époque était une compétence métier ou savoir taper à la machine a été une compétence métier. Aujourd'hui, on pourrait vous rajouter quelques cours de dactylo, mais je pense que ça se fait moins. C'est très utile, hein. Prenez un manuel de dactylo, vous verrez. Mais du coup, dans le domaine de l'édition, on a l'impression qu'une problématique pour les éditeurs aujourd'hui, c'est de savoir comment définir leur champ de compétences. D'une part l'automatisation que tu évoques, d'autre part l'édition autoritative qui se déploie. Et donc, comment est-ce que tu vois, en tant que responsable de collection dans une maison d'édition, la façon dont les éditeurs pourraient expliciter la valeur ajoutée et expliquer en quoi leur rôle est encore central ou pas, ou en quoi il constitue aujourd'hui?
Dans le cas de la collection Parcours numérique, l'idée a certainement été de remettre en avant la fonction de l'éditeur au niveau du choix et du matériau et de l'approbation du contenu scientifique. Donc déplacer certains métiers qui combinaient je choisis, je le mets en page, je l'imprime, je le distribue, à une redistribution littéralement de ces métiers-là, mais celui qui ne change pas, c'est la partie, surtout dans un contexte scientifique, d'approbation du contenu, évaluation par les pairs ou d'autres formes, mise à jour un petit peu de ça. Est-ce que ça devient une version Facebook de si 50 personnes disent que c'est un bon article? Dans le milieu scientifique, maintenant, certaines plateformes de revues savantes mettent des articles non évalués d'abord en ligne et si suffisamment de gens trouvent que c'est bien, après ils font une évaluation formelle en deuxième étape. Donc on change un petit peu les modes de processus. Et donc les éditeurs continuent, dans mon cas, c'est pas pour... On avait réfléchi avec Marcello, est-ce qu'on fait cette collection-là sur notre propre serveur en disant à des gens qu'on aime bien, tiens, on a un nouveau projet, ça va se faire, et donc c'est un aspect plus recherche. Ou est-ce que dans cette phase de transition, on implique une maison d'édition qui a 50 ans, 3000 livres, et donc quand c'est publié par les presses de l'Université de Montréal, vous avez une imprimatur de qualité qui permet différentes choses, y compris pour les auteurs qui sont encore en... Donc c'est la question de validation. Donc je pense que c'est ça qui change et que oui, la question de digital literacy change, et en particulier sur le fait que même si le marché du e-book n'a pas explosé et qu'on n'est pas à 89% de pénétration, mais on est passé de 0,8 à je ne sais pas où on est maintenant, mais on est toujours un peu en phase assez évanescente, on va dire quand même. Il y a en même temps la capacité que plus personne, que ce soit étudiant ou même personne, surtout dans le milieu académique, parce que c'est encore évidemment le milieu d'un truc, on ne va pas surprendre, comme tu dis, on ne va pas dire à quelqu'un « vous avez trouvé ce document-là en ligne ». Ils ne vont pas savoir ce que c'est en ligne. De la même manière que les courriels, il y a 20 ans, ce n'était pas très populaire. Mais les gens n'y répondent pas maintenant, mais ils savent ce que c'est. Donc je pense que c'est ça, le rôle éditeur garde ce processus-là, qui quelque part, en fait, le ramène à ses origines, où il y avait vraiment cette idée que écrire en manuscrit, c'était bien, mais à partir du moment où quelqu'un allait le mettre sur papier... Bon, il y a toujours des possibilités de comptes d'auteur, des choses comme ça, mais évidemment avec un autre type de validation. Et donc des plateformes mixtes, c'est aussi de réfléchir au milieu de l'éditeur, donc à la fois au niveau accès à l'information et production de l'information, où les chaînes ne sont plus fixes dans le moment où la manière dont l'information est produite est diffusée. Donc il peut y avoir des détours. C'est pour ça qu'on a appelé en fait la collection Parcours numérique. c'est parce qu'on voulait que les gens puissent arriver et repartir. Donc ils vont lire un chapitre du livre sur une seule page, mais pas forcément celui d'après, ils vont suivre un lien, vont repartir. Donc il y a cette idée que vous n'avez plus un ouvrage qui a une page 1, une page 150. On a aussi la version papier, mais c'était un choix différent parce qu'en fait la version papier pour nous était une version linéaire d'un essai que vous lisez, sans notes de bas de page, sans supplément, qui rappelle l'essai à la Montaigne, et la version en ligne devient l'outil scientifique avec tout l'apparitus critique et plus.
Oui.
On n'a pas de réponse, honnêtement, autant que on se dit qu'on ne peut pas l'ignorer. Donc, dans quelle mesure cette modification des processus d'évaluation, y compris par exemple l'évaluation ouverte, un de nos ouvrages a été publié comme ça, plusieurs revues s'en servent régulièrement, où vous faites cette évaluation ouverte en ligne pour voir ce que les gens disent, pour essayer d'améliorer le contenu de l'article avant une publication finale ou un ouvrage final. On en est encore dans cette phase de la difficulté pour les gens encore de publiquement se commettre. Donc dans un côté scientifique, il y a encore une certaine timidité, justement parce que la communauté scientifique a tendance à penser à cette notion d'écriture comme une notion permanente, et on préfère éviter de dire des bêtises dans un billet, dans un commentaire ou des choses comme ça, et se commettre publiquement vis-à-vis de ses pairs. Donc la communauté scientifique hésite beaucoup, justement, va écrire à l'auteur individuellement et privé un commentaire sur son ouvrage, mais va pas forcément dire sur Amazon « j'ai vraiment adoré lire cet ouvrage-là ». Vous en avez quelques-uns, mais quand vous pensez à la disparité entre le nombre de copies vendues et puis les quelques commentaires qui vont se trouver sur Amazon pour des ouvrages scientifiques, hein, je ne parle pas, encore une fois, de romans de fiction. Donc en fait, c'est est-ce que ces commentaires-là pourraient prendre d'autres formes ? Et donc, est-ce qu'on peut adapter, par exemple, le fameux « j'aime » de Facebook sur ça. Et certaines revues scientifiques commencent à penser à est-ce qu'on pourrait mettre une étoile, deux étoiles, trois étoiles plutôt qu'un commentaire écrit à noter, et comment est-ce qu'on pourrait le prendre en compte. Est-ce que ça voudrait dire que, un peu de la même manière que les questions d'altamétrique, un article qui est téléchargé mais non cité a-t-il la même pondération qu'un article moins téléchargé mais plus souvent cité? Qu'est-ce que ça veut dire l'un par rapport à l'autre? Comment est-ce qu'on peut utiliser ces données-là qui sont en forme eux-mêmes d'un commentaire, puisque vous avez choisi de cliquer le bouton téléchargement, donc vous avez, même d'une manière anonyme, contribué à la visibilité de l'article, avec après, ça devient évidemment la construction sans fin qu'on a les 10 articles les plus lus sur telle revue que les gens vont tendance à voir. C'est un peu comme le New York Times bestseller. J'ai des amis écrivains et vous voulez être dedans, parce qu'une fois que vous êtes dedans, vous n'en sortez pas pendant quelques temps, parce que vous devenez... les gens se demandent pourquoi vous êtes là et vont vous lire, et donc comme ils vous lisent, vous y restez. Donc après, vous avez des choses effarantes du style 275 semaines dans le New York Times bestseller, mais c'est des processus autoréalisés, on va dire. Donc c'est une question un peu compliquée par rapport à ça, surtout dans un contexte scientifique. Et c'est pour ça que quand je reviens à l'exemple du cours que tu donnes avec Jean-Michel, ces annotations-là ne sont pas publiques. Généralement, pour encourager les étudiants à avoir votre communauté de pairs au sein de la classe va vous lire, mais de la même manière que si vous ouvrez la bouche en classe, les autres vont vous entendre. C'est pas comme si vous attendez de voir le prof à la fin du cours pour faire un commentaire. Si vous faites un commentaire public comme aujourd'hui, vous êtes entendu dans un ensemble. Par contre, ça reste dans le cadre de l'école, des gens qui sont dans votre classe. C'est pas comme si ma conférence était diffusée en public, en streamée, en direct, et que vous faites un tweet qui est en rapport à ça. Donc c'est les formes de tweet. Et Marcello s'occupe d'un séminaire avec l'IRI à Paris, sur le séminaire sur les déditorialisations, où ils ont développé un outil sur ce qui s'appelle Polemic Tweet, où ils font justement un lien direct entre les tweets pendant la conférence, et il y a un timestamp qui vous permet de voir la conférence et de voir les tweets en dessous. Donc il y a une version d'annotation de la conférence en direct. Des gens qui choisissent évidemment de publier sur Twitter, qui en premier lieu est un environnement public. Donc vos tweets sont archivés par Twitter et vendus après par Twitter, mais il y a une forme de vous avez fait une déclaration publique. Facebook, nominalement, vous pouvez choisir de cocher l'option privée. Donc il y a cette idée, plus ou moins vraie, de privé public. Twitter s'est toujours mis en avant comme une surface publique. Donc c'est pour ça que ces annotations et formes de commentaires varient un petit peu. Ben après, évidemment, l'anonymat, par définition, a tendance à s'opposer à la construction scientifique traditionnelle, où justement, cette idée 18e, c'est qu'on mettait et on avait la notion d'autorité. Donc l'autorité est changée par, mais c'était professeur X, A, avec une institution, une affiliation et tout ça. Donc ça change. Donc les commentaires dits anonymes, sans parler évidemment des problèmes à la Gamergate ou d'autres d'attaques individuelles ou choses comme ça, même d'un point de vue simplement, comment est-ce qu'on peut valider ça. Il y a un épisode très drôle de, si vous ne regardez pas la série Big Bang Theory, je vous encourage à regarder certains épisodes, mais dans un des épisodes, les deux acteurs principaux publient un article dans une base de données où quelqu'un qui a un nom un peu loufoque dit plein de choses méchantes sur l'article et ils en sont vraiment, et ils finissent par découvrir qui c'est. Et c'est Stephen Hawking qui, en fait, s'ennuie et donc il a évidemment joué le jeu dans la série en disant que de temps en temps, pour s'occuper, il fait ça parce qu'il aime bien attaquer les gens dans des plateformes, mais qu'en fait, il y a quand même des trucs pas mal dans le papier, tout ça. Mais cette idée d'attaque dans quelqu'un, même dans un environnement scientifique, et l'épisode est intéressant pour cette idée, évidemment, de casser le sacro-saint que les scientifiques, entre eux, vont pas se taper sur les doigts. Alors qu'évidemment, ils sont les premiers à se taper dessus, comme tout le monde, et dans un contexte vraiment très restreint que le milieu astrophysique théorique n'est pas évidemment lu comme les commentaires de Libé ou d'autres choses. Mais là, la notion d'anonymat, où en fait c'est anonyme dans le sens où vous pouvez choisir un mot de passe, enfin un nom d'utilisateur qui n'est pas. Et en fait, ça remonte au début de Facebook, vous pouviez vous appeler n'importe comment. Et Facebook a voulu une validation un petit peu pour créer cette idée, encore une fois, on parlait du réel tout à l'heure, il y a des gens réels derrière ce nom. Et en fait, quand vous essayez vous-même de créer dans une salle de cours, je vous encourage à faire un exercice une fois, créer 10 identifiants Facebook depuis votre portable dans une salle de cours, avant le 10e, vous allez être bloqué. Parce que Facebook va voir, c'est la même adresse IP qui crée des profils Facebook. Donc même si vous donnez des vrais noms, vous prenez toute votre famille et vous créez des identités pour tous les membres de votre famille qui existent en vrai, le fait que ça vient de la même machine, Facebook va penser que c'est automatisé, que ça n'existe pas, donc vous allez être bloqué. Parce qu'ils veulent maintenant justement essayer d'avoir cette idée d'authenticité.
Ça vaut plus cher des vrais profils. Les faux profils, ils achètent pas.
Et ils ont encore fait 30% de bénéfices ce matin, je disais. Donc, ils en vendent de la publicité.
Encore une question, oui. Les autres, vous pouvez y aller. On va continuer avec Fanny et sa voisine.
Alors, il y a plein de bonnes choses dans Wikipédia et les wikis en général pour cette idée de collaboration. Et donc, quelque part, cette validation par les pairs, puisque c'est les pairs d'une communauté qui s'intéresse à cette thématique, est à prendre en compte. C'est toujours, encore une fois, je vois plus cet environnement-là comme dans quelle mesure on pourra intégrer, et ça c'est une question à laquelle je n'ai pas encore de réponse, la partie active, c'est-à-dire que les contributeurs dans cette plateforme ne se contentent pas de valider un contenu, mais peuvent le réécrire. Et donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le changement du lecteur passif à un contributeur actif où la partie autoriale et la notion d'autorité est modifiée. Ou comment est-ce qu'on fait si quelqu'un veut rajouter des notes dans votre édition ou modifier vos notes ou comment est-ce qu'on pourrait arriver à avoir cet aspect-là. Et là, encore une fois, ça devient des questions de est-ce qu'on pourrait faire un peu comme le projet de Bruno Latour à son Media Lab où il y a un cercle de commentateurs autorisés et eux, personne ne peut toucher à ce qu'ils font. Puis un deuxième cercle de gens qui peuvent soumettre des commentaires qui sont validés par un cercle de un comité éditorial, on va dire, par rapport à ça. Donc de réfléchir à ces degrés de validation de contenu par rapport aux autres. Donc il y a une invitation à contribuer activement à la rédaction et à l'annotation d'ouvrages, mais en gardant tout en même temps un objet fixe au cœur, une première couche plus traditionnelle dans sa composition, et rajouter après une couche supplémentaire. Donc, ça devient un petit peu la même manière qu'on réfléchit à des questions de visualisation. Vous pourriez avoir une édition critique sur votre tablette qui n'a que le texte, qui a le texte et quelques notes, qui a le texte et plus de notes que de texte, donc réfléchir à comment les interfaces elles-mêmes, les points d'accès, tablette, téléphone ou ordinateur, pourraient aussi changer ce que vous puissiez voir et donc commenter. Et donc, encore une fois, est-ce qu'on vous laisse faire des notes plus approfondies si vous êtes sur un environnement qui s'y prête ? Et est-ce qu'on sait que vous êtes sur votre téléphone, donc on va vous permettre des étoiles pour pouvoir faire une forme de commentaire ? C'est pas encore, honnêtement, c'est pas encore très défini.
On le voit bien quand il y a certains épisodes sur Wikipédia de mise à jour un petit peu forcenées, des luttes sur certaines pages. En fait, la solution à un moment, c'est de figer les choses, quoi. Parce que le mécanisme de validation atteint sa limite, on va dire, opérationnelle, et donc Wikipédia, enfin les administrateurs, décident de figer les choses pendant un temps, le temps que les personnes qui se bagarrent se mettent d'accord, et ensuite ils repartent. Et donc en gros, ils font sortir le débat de leur outil tel qu'il existe et tel qu'il est censé fonctionner, pour le porter vers un autre outil plus familier ou plus traditionnel. Ensuite ils reviennent sur la plateforme Wikipédia une fois qu'ils sont mis d'accord. Mais et à chaque fois c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'il y a ce genre d'épisode, ça fait surgir un certain nombre de critiques quant au modèle de Wikipédia, du genre vous voyez bien, ça marche pas, etc., etc. Tout en oubliant que ce type de débat, c'est des types de débats qui existent tout le temps. C'est juste qu'avant on les voyait pas, quoi, parce qu'on ne voyait que la version finale. Mais il y a un certain nombre d'ouvrages et de textes ou de contenus qui, au moment avant leur publication, donnent lieu à des débats aussi enflammés que ce qu'on voit sur Wikipédia. C'est juste que ça restait jusqu'à présent du côté back-office, quoi. Et là, c'est un peu porté en avant.
Plus de questions ?
Plus de questions ? Une dernière. Ah, deux. Allez-y. Et après Antoine et... Voilà. Le quoi ?
Les droits d'auteur.
Ah oui.
Oui.
Pour la publication scientifique non plus, rassurez-vous.
Ah oui, mais ça ne rapporte pas.
Ah oui. Oui, dans ce sens-là, effectivement, vous ouvrez encore une fois des questions de type de licence. La plupart de ces forums et plateformes... pour l'organisme mondial, le Alliance of Digital Humanities Organization, qui a donc six grandes antennes en Australie, au Canada et en Europe aussi, pour la nouvelle conférence qui aura lieu en Pologne l'été prochain, pour l'appel à soumission dans le processus scientifique traditionnel en ligne, ont rajouté cette année une boîte où vous donniez, pour la première fois, ça avait été amené en avant, qu'on n'avait jamais explicitement donner le droit à l'association de mettre les précis acceptés dans un cahier de précis qui était distribué il y a longtemps en papier, maintenant en clé USB ou disponible en ligne simplement, mais que les auteurs n'avaient jamais cédé leur droit d'être republiés, même dans un contexte mes 1500 mots de précis vont être republiés. Et quelqu'un a fini par se rendre compte que il faudrait peut-être avoir une boîte qu'on peut cocher, justement parce que c'est communauté sympathique, etc., etc. Donc personne n'avait jamais attaqué. Et c'était aussi, dans le passé, beaucoup l'approche de Google Books à ses débuts si vous pensez que c'est là par hasard, dites-le-moi, j'enlèverai, mais par défaut, je vais le mettre quand même. Donc là, c'était aussi l'idée que tous ceux qui ont soumis, qui ont été acceptés, on va les mettre en ligne. Et certains, pour des raisons X ou Y, ne voulaient pas être présents. Et effectivement, on demandait leur papier, maintenant on procède à l'inverse. Justement pour ça, et en partie parce qu'on met beaucoup plus explicite le fait que la recontextualisation de ce que vous avez mis en ligne devient beaucoup plus facile, puisqu'il y a une extraction. Donc avant, la publication papier dans les actes du colloque le pavé qu'ils vous donnaient quand vous arriviez à la conférence. C'est clair que ce n'était pas exactement vendu sur eBay le soir même d'une manière... Par contre, maintenant, c'est disponible. Quelqu'un peut faire une recherche sur autre chose, tomber sur ce précis-là et choisir de le réutiliser, tirer, voler. Donc, la question de... Ah oui, mais là, maintenant, c'est protégé par un droit d'auteur intellectuel sans possibilité financière, mais qui permet là, le fameux réutilisation, remix, des choses comme ça, tant que l'attribution originelle est disponible. C'est le CCBY 4.0, je crois, celui qui permet cette version-là. Mais ça, évidemment, ça entraîne un petit peu, encore une fois, des changements de mentalité. Et c'est aussi pour ça que du côté scientifique, il n'y a pas tellement la question de droit d'auteur, peut-être comme à laquelle vous pensez, autant que la question de reconnaissance. Et certains cas qui vont dire « Ah, j'ai pas publié un article ce trimestre, mais j'ai fait 172 corrections d'articles sur Wikipédia ou des commentaires sur des blogs de collègues ou des choses comme ça. » Est-ce que ça compte quelque chose scientifiquement, d'un point de vue pécunier pour mon institution, parce que justement mon nom apparaît 172 fois. Donc de réfléchir aussi à des changements de forme de validation du côté des institutions sur, avant vous demandez X nombre d'articles par an pour pouvoir avoir une promotion ou des choses comme ça, maintenant est-ce qu'on peut reconnaître votre contribution à différentes plateformes tant que vous ne faites pas bah justement un j'appuie sur le petit cœur en disant oui je l'ai lu, j'ai bien aimé, mais vous avez fait une contribution. Et là évidemment ça vous la porte à on comprend un article scientifique entre 6 et 12 000 mots ou des choses comme ça. Un billet de blog, certains à 200, certains à 2000, ça varie. Après, vous faites des commentaires sur un billet de blog, est-ce que vous faites des commentaires plus longs que le blog lui-même? Est-ce que vous avez fait deux lignes de commentaires en bas? Est-ce que ça vaut la peine de le mettre dans votre CV? Et comment est-ce que ça va être mis en avant? Donc il y a aussi un petit peu ce côté. Donc là, c'est la partie reconnaissance de la production intellectuelle qui devient un petit peu... Et le côté collaboratif, évidemment, toujours un cauchemar, puisque les scientifiques ont plus l'habitude que nous, en sciences humaines, de dire soit c'est moi d'abord parce que je suis le prof et je mets mes étudiants derrière, ou à l'inverse, c'est d'abord les étudiants, mais on sait que le nom qui compte, c'est le dernier, ou des choses comme ça. En sciences humaines, c'est... Il y a une édition critique d'une personne ou d'un groupe d'auteurs, et on se doute qu'ils ont plus ou moins un partage équitable. Quand vous commencez à avoir des gens, on va les mettre comment? On va les mettre édités par X, avec des commentaires des 172 personnes suivantes. Et là, est-ce qu'on va les choisir parce qu'ils ont... Alors, il y a des processus qui sont un peu empruntés aux jeux vidéo pour motiver parfois les étudiants. Des expériences très intéressantes de ce qu'on appelle le gamification, où vous allez avoir... vous avez des points. Et donc, si vous faites un commentaire de tant de mots, vous avez tant. Et puis, plus vous faites des commentaires longs, plus vous avez des points. Puis, vous êtes regroupé par équipe et vous avez la colonne qui apparaît au début du cours sur quelle équipe gagne par rapport à d'autres. Pour motiver les étudiants à faire des choses, mais ça devient aussi, il fallait trouver un processus d'évaluation, parce que c'est bien beau de dire aux étudiants, passez du temps à faire des commentaires, la réalité c'est, ça compte combien de pourcents dans mon note finale, donc si c'est 2%, je m'arrêterai vite, si c'est 20%, je vais y travailler un peu plus, mais si ça c'est 20%, mon essai plus traditionnel de 10 pages que je fais deux fois par session, lui aussi vaut 20%, mais là je commence à être un peu confus par rapport au temps que j'ai mis pour l'un et au temps que je mets pour l'autre. Donc ça change un peu. J'ai une dernière question en fait.
Ouais.
C'est un très bon point technique et honnêtement, on regarde un peu l'expérience avec aussi la possibilité de comment est-ce qu'on fait quand on fait une itération X d'un EPUB et que les contenus ont changé, qu'on dit on encourage les gens à revenir télécharger la nouvelle version qui a été annotée de manière supplémentaire. Si eux, entre-temps, ils ont travaillé sur leur EPUB, évidemment, on va se faire lyncher pour si on n'arrive pas à récupérer donc, les annotations qu'ils ont pu faire de leur côté. Et ça reste un petit peu la partie à la fois... le bénéfice du pratique, justement pour les plateformes mobiles, pour des questions de visibilité, d'accessibilité. Or, même si tout se développe bien, il y a encore pas mal d'endroits où les gens n'ont pas d'Internet en direct. Donc, comment est-ce qu'on réconcilie un petit peu ça? Et les habitudes de lecture qui vont être aussi un petit peu différentes. Donc, je pense que c'est du court terme, un petit peu ce rapport-là. Et honnêtement, c'est là où on suit un petit peu ce que fait Erudi avec leurs propres travaux d'exploration, de voir est-ce qu'il y a même, en fait, une fois que l'option est bien mise en place et disponible, est-ce que les gens font ça? Parce que quelque part, c'était une demande faite vraiment très forte il y a 2 ans. Mmh. Bon, ben, comme vous le savez, ça va très vite. S'ils refaisaient la même évaluation de leurs utilisateurs dans un sondage explicite sur qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous voudriez voir, peut-être que maintenant, cette référence-là ne serait plus là. Bon, il se trouve qu'entre-temps, ben, ils ont eu de l'argent pour mettre en place cette chaîne-là. Donc, bon, ben, il faut qu'ils livrent ce qu'ils ont promis qu'ils allaient mettre. Donc, ils vont avoir cette option-là. Et nous, comme on travaille avec eux, on a dit ben, on va aussi profiter de ce qu'ils font pour contribuer à ça. Ça sera peut-être changé. Enfin, je n'ai pas eu le temps de lire les derniers détails, mais Kindle vient encore de mettre à jour son format propriétaire à lui d'une manière qui ne plaisait pas à beaucoup de monde, mais qu'il faut suivre parce que les téléchargements se font, vous le vouliez ou pas. Donc, il y a un petit peu ces changements technologiques qui vont très vite. Et c'est un petit peu le problème pour les demandes d'ANR et d'autres. C'est évidemment vendre un budget qui n'a pas de raison d'être moyen terme, même quasiment à court terme, mais définitivement à moyen terme, de réfléchir un petit peu à ça. Et on le voit avec la question pour la collection Parcours numérique qu'on a fait. On a pris du SPIP au début par côté pratique de regarder ce qui était disponible sous le coude, qui marchait bien, accès libre, communauté d'utilisateurs. Bon, ben, la communauté SPIP d'il y a 3 ans, quand on a commencé le projet, elle n'est plus la même maintenant. Donc, ce qui nous importait et qui reste valide, c'est évidemment la portabilité de toutes les informations qu'on a dans la plateforme. Donc on ne s'inquiète pas par rapport à ça, mais cette mouvance technologique revient en fait à la question évidemment de l'importance de la structuration des données en premier lieu, puis après on pourrait dire on arrivera à survivre. Mais effectivement, l'EPUB, c'est un petit peu à un moment donné le côté pratique par rapport aux capacités technologiques qui s'accompagnent.
On va s'arrêter là. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus et pour votre participation dynamique à ces échanges. Et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.